vais pas faire durer le suspense. Le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nous voilà en respect.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice, la géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie là, sur nos petits, avec nos petites idées dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct dans cette émission du mercredi 9 octobre 2024. Alors le mercredi, c'est le jour des enfants, mais aujourd'hui, ça va être le jour du Service National Universel appelé le SNU. En effet, c'était, je crois, l'année dernière, on avait été à la Bourse du Travail de Paris puisque le collectif NoSNU avait organisé une réunion publique que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre site et qui donnait pas mal d'informations là-dessus. Et puis voilà, une année est passée et on avait envie de refaire le point aujourd'hui sur ce service national universel et on va le faire avec nos invités mais qui vont se présenter.
Bonjour, moi je suis Irène, je suis professeure dans le second degré et j'ai des secondes notamment dans mon service. Donc c'est des jeunes qui potentiellement vont être volontaires, qui vont s'inscrire. Voilà, donc je me sens concernée aussi en tant que citoyenne au-delà de mon métier.
Cassandre, je suis parent mais je suis plein d'autres choses et en tant qu'habitante concernée par ce qui nous entoure et l'école et ce qu'on fait à la jeunesse.
Voilà, le Service National Universel, SNU, donc ça fait 5 ans que ça existe. Hein. Ça a été lancé en 2019, une volonté d'Emmanuel Macron, on va dire, pour essayer de ressouder la jeunesse à la nation, à point de dire ça comme ça. Et c'était aussi cette émission pour faire le point 5 ans après. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur ce Service National Universel ?
Alors on peut peut-être rappeler comment ça s'articule, parce que c'est ça qui est mis en avant. Un jeune qui va faire le SNU le fait soit sur temps volontaire, pendant les vacances, il y a plusieurs sessions par an, soit il est embarqué dans une classe engagée avec un de ses professeurs de seconde qui a signé, ou de CAP, parce que les CAP sont concernés aussi, qui a signé pour ça. Et donc le SNU, c'est d'abord le séjour de cohésion, c'est 12 jours dans un lieu hors de son département. Et c'est présenté comme une colo super sympa, où on porte l'uniforme, on chante la Marseillaise, on se lève tôt, on fait beaucoup de sport, on est à fond, on réfléchit vaguement sur des questions de citoyenneté. Voilà, pour dire vite. Et si le jeune veut valider pleinement son SNU, il faut qu'il fasse une mission d'intérêt général, c'est-à-dire 84 heures dans une association ou dans un corps en uniforme. Et donc gendarmerie, police, une unité en uniforme. Et c'est seulement à la fin qu'il aura validé son SNU et qu'il aura laissé toutes ses coordonnées, ses données sur une plateforme pour être recontacté éventuellement. Voilà pour le dispositif. Il y a une troisième phase facultative, mais qui a un engagement de service volontaire, c'est ça, mais qui est plus qui vise à être abandonné.
Voilà, donc ça permet un peu de poser ce que c'est le SNU. Alors, on l'a un peu dit, hein, c'est ressouder la nation à la jeunesse. Alors, dans notre mémoire, les vieux comme moi, hein, peut-être certains auditeurs et auditrices un peu plus âgés, se souviennent avec nostalgie, on va dire ça entre parenthèses, du service militaire, hein, puisque c'était un, on va dire que c'est un peu la suite. Qu'est-ce que ça a voulu dire, ça, justement, ce service national universel qui arrive comme ça?
En fait, en 2017, quand Macron arrive au pouvoir, et dans ses intentions d'arriver au pouvoir, il parle déjà d'un service militaire pour les jeunes. Donc lui, quand il commence à gamberger sur le SNU, il a cette vision d'un service militaire pour les jeunes. Il va donner cette mission à un militaire, le général Menahouine, qui va travailler là-dessus. Il va y avoir un premier rapport et donc des premiers volontaires dès 2019. Sachant que donc, entre ce qu'a voulu Macron et ce qu'est aujourd'hui, ça a pris plein de formes différentes pour plein de raisons qu'on va peut-être pouvoir développer un peu. Mais donc lui, il a cette intention-là et ça ne se passe pas tout à fait comme il avait prévu. Et il y a eu donc des premiers séjours en 2019. L'idée, c'est quand même... c'était quoi la question sur le service militaire?
C'est-à-dire le lien entre le service militaire et aujourd'hui le SNU, quoi.
C'est la même chose ou pas?
Alors, il faut savoir qu'en fait, le service national, tel que le service militaire dépend donc du service national, quand il a été suspendu en 1997, et donc reste aujourd'hui les deux premières phases du service national, qui sont le recensement et ce qu'on appelle la JDC, donc une journée d'appel. Et la troisième phase, qui est l'appel sous les drapeaux, a été suspendue. Donc,
C'est Chirac en 97.
Voilà. Le service national universel, le SNU, c'est bien l'ambiguïté du terme, puisque ça s'appelle de la même façon, service national universel. C'est pas tout à fait ça, mais il y a des liens forts entre les deux. Mais aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, justement, les reproches qui sont faits par tous les rapporteurs à l'Assemblée nationale, au Sénat, etc., c'est de dire on comprend plus trop bien ce que c'est que ce SNU. Parce que les volontés politiques et les volontés de l'armée viennent chaque année en rajouter, en enlever, selon les moyens qu'ils ont, selon ce qui peut être mis en place ou pas. Donc ça finit par ne plus ressembler à grand-chose. Mais finalement... l'idéologie qu'il y a derrière et l'intention, que ce soit des armées et du politique, sont toujours les mêmes. C'est juste que le SNU ne ressemble plus à rien parce que les moyens n'y sont pas, parce qu'il y a des moyens logistiques qui ne sont pas là. Donc c'est difficile de dire...
Il a parlé de lui en mal aussi à cause de plein de dysfonctionnements d'ordre logistique divers.
Et il y a aussi derrière, il faut comprendre que pour les armées, pour l'armée... ils savent que parler du service militaire est très clivant aujourd'hui. Donc il y en a qui sont très partagés entre utiliser le SNU comme un nouveau service militaire ou pas, parce qu'ils savent que c'est clivant, sauf que eux, ce qu'ils veulent, c'est toucher la jeunesse. Donc quel va être le meilleur moyen pour toucher la jeunesse? Est-ce que le SNU peut répondre encore à ça ou pas? C'est ça l'enjeu actuellement, et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce pour voir un peu comment c'est reçu. Il faut savoir que ce qui est clivant dans le politique, c'est les moyens et les coûts derrière. Le SNU, le dispositif en 2019, c'était 2000 jeunes, je crois. C'était l'expérimentation, donc il y avait très peu. Et ils ont voulu en faire quelque chose, un dispositif qui soit évolutif.
De plus en plus ouvert. Alors la généralisation, c'est un sujet qui est revenu de temps en temps, mais le but, c'est d'inscrire de plus en plus de jeunes tous les ans, quoi.
Les chiffres qui sont donnés, par exemple, c'est 2300 euros par jeune.
Alors là, il y a un rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir et qui donne un coût encore plus important, parce qu'il faut comprendre que là, pour l'instant, ça n'a pas encore coûté trop cher, parce qu'ils font que de nous dire généralisation, mais concrètement, les objectifs qui se sont fixés chaque année n'ont jamais été atteints. C'est-à-dire qu'il y a soit des jeunes qui ne répondent pas à la demande, soit des annulations, etc. Donc là, par exemple, ils visaient 66 000, je crois, jeunes cette année. On ne sait pas encore quel est le chiffre. Mais la dernière, c'était 40 000. Il y en a eu 32 000 en 2021. Et ils ne sont jamais allés au bout des objectifs fixés. Donc là, ils ont la dépense normalement prévue, c'était 160 millions. Mais s'il y avait généralisation, on parlait de 2 milliards par an. On sait qu'en fait, ça sera plutôt 3 à 5 milliards par an. Mais le rapport de la Cour des comptes le dit, avec plein de coûts cachés qu'on n'estime pas encore. Et c'est du fonctionnement, mais en investissement, c'est-à-dire construire des baraquements, puisqu'on est là-dedans, ça peut être jusqu'à 6 milliards d'euros. Ouais. Donc en fait, les coûts sont astronomiques. Et dans un contexte social... comme aujourd'hui.
Où on serre la ceinture un peu partout.
Ouais. Même s'ils sont capables de donner 417 milliards d'euros sur 5 ans aux armées, là, le faire passer comme ça aujourd'hui, ils savent que ça ne passe pas politiquement. Ils savent qu'il y a des députés, même populistes, qui vont dire eh ben non, on ne peut pas se permettre et tout. Donc, les coûts sont un frein, la logistique, tout ce qui va devoir être déployé. En fait, il y en a beaucoup qui ne veulent pas du SNU à cause de ça. Mais qui veulent de ce qu'il y a derrière. Et c'est peut-être ça dont il faut qu'on parle aussi, de ce qu'il y a vraiment derrière le SNU.
Alors, ça peut être un peu paradoxal, puisque aujourd'hui, il faut récupérer un petit peu la jeunesse, d'après eux, perdue. Et pour eux, ça peut être aussi un moyen d'encadrement fort de la jeunesse, puisque l'éducation nationale, il manque des financements, les services d'aide qui peuvent être de soutien scolaire et tout ça, c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, est-ce que c'est pas un bon moyen pour l'État aussi de serrer un petit peu la vis à la jeunesse et de l'encadrer plus encore ?
Le mot d'engagement est très souvent repris, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est restreint à l'engagement militaire. Il y a une vitrine un peu pour la classe engagée que j'évoquais tout à l'heure. Là, le professeur peut obtenir de l'argent s'il inscrit sa classe en classe engagée. Il obtient de l'argent, des subventions fortes, 1 000 euros, pour faire des choses comme de la lutte contre l'homophobie, la question du handicap, de l'insertion du handicap. Donc, au début, ça a l'air d'être l'engagement au sens large du terme, mais avec le séjour de cohésion et avec le recrutement par les corps en uniforme, on se ressent vers un engagement qui n'est qu'en fait militaire. On peut parler des associations aussi, qui sont fortement mises à contribution pour l'organisation elle-même des séjours, puisqu'il manque d'encadrants. Et le dilemme des associations, c'est en être ou pas. Et il y en a qui sont contre idéologiquement, mais qui en fait n'ont pas les sous, n'ont pas l'argent pour faire. Et retrouvent de l'argent si elles participent au SNU.
Mais il y a vraiment effectivement une volonté de mettre au pas la jeunesse. C'est pour ça que le SNU est à la croisée du politique avec, de toute façon, une société qui veut que la jeunesse soit obéissante, etc. Mais ça rejoint aussi ce que l'armée veut. Parce qu'en fait, il faut comprendre que chez les militaires actuellement, avec en plus l'Ukraine et tout ça, ils ont besoin de ce qu'ils appellent la cohésion nationale. C'est aussi les forces morales de la nation. Mais pourquoi ils ont besoin de cette cohésion nationale ? Parce que pour eux, une société fragmentée et donc avec une jeunesse qui peut se révolter, par exemple, c'est le risque de voir des ennemis de l'extérieur instrumentaliser des luttes intérieures. Ouais. C'est ce qui s'est passé. On a vu des choses où la Russie intervient, etc. Ça, c'est une peur qu'ils ont. Et donc, ils ont besoin pour ça d'avoir la jeunesse sous les ordres, sous leurs mains, et qu'on éteigne toute velléité de désobéissance. Donc ça, c'est vraiment un point important, cette cohésion nationale. Donc effectivement, le SNU peut, dès le départ, mettre au pas cette jeunesse. Et donc, il y a cette volonté-là. Donc le SNU s'inscrit vraiment dans cette histoire. Et c'est pour ça que le SNU est à la rencontre vraiment de besoins de l'armée et de besoins politiques avec l'extrême droitisation de la société, avec toute la société réactionnaire. Donc le SNU répond à ça. Après, il y a des limites pour les militaires et c'est peut-être...
Et puis elle peut pallier aussi au manque de notre société, puisque on a vu que des jeunes du SNU peuvent réaliser gratuitement eh bien, quelques petits travaux comme nettoyer les littoraux, servir des repas aux personnes âgées, et puis notamment, ou même s'en occuper d'ailleurs, choses qui sont faites habituellement par des salariés ou par des bénévoles.
Alors ça, ça porte plutôt sur la deuxième phase du SNU qui est la MIGE, donc la mission d'intérêt général, si le jeune veut s'engager encore plus après le séjour de cohésion. Et effectivement, ce qui a été décrit au début, c'est que c'est du travail déguisé, non encadré. Donc on imagine qu'il y a plein de structures qui vont employer ces jeunes-là, qui vont les employer vraiment pour les faire travailler. Et peut-être c'est l'occasion d'ajouter qu'à la fin de son SNU, le jeune est considéré comme réserviste civique. Réserviste civique, c'est une réserve qui a été créée spécialement pour l'occasion, donc qui n'est pas la réserve opérationnelle, laquelle pouvant mener sur le champ de bataille concrètement. Ouais. C'est à part, mais elle a été créée spécifiquement. Et alors pourquoi créer une réserve si elle ne sert à rien ? Donc il y a une forte inquiétude là-dessus. Tu veux compléter, Cassandre ?
Sur les réserves, il y a beaucoup de choses à dire quand même. Alors je pense qu'on peut en parler. Parce qu'en fait. On parlait de cohésion nationale, mais il y a vraiment un autre truc qui est très important pour les armées et qui répond aussi aux besoins politiques du moment, c'est la fabrique du consentement, quoi. Mmh. C'est vraiment faire en sorte, et la contagion aux autres, voilà, à la société, de la nécessité de voir des militaires, que les militaires, voilà, que ça soit naturel pour la société, en fait.
Familier.
Et pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin, et ils prennent comme exemple, hein, d'ailleurs, les militaires prennent comme exemple ce qui s'est passé en Ukraine, où ils ont besoin que la société civile soit de tout cœur avec les militaires. Et pour ça, la réserve, c'est pour eux le moyen opérationnel le plus fort, parce que c'est le liant humain entre la société civile et les militaires. Donc, ils créent des réserves absolument partout actuellement. Il faut savoir que, par exemple, ils viennent de créer, il y a un ou deux ans, la réserve de la
PJJ, police judiciaire de la jeunesse,
pour permettre à des militaires, en fin de carrière, de venir prêter main forte et donc de faire partie de cette réserve et d'être opérationnel auprès de jeunes qui dépendent de la PJJ. Donc, ils sont en train de mettre des réserves absolument partout. Comme ça mange pas de pain. On se dit, une réserve civique, oui, bon, voilà. Sauf que c'est des réserves, ça veut dire des gens dont on peut se servir et qu'on peut activer par une loi, par un décret, par toutes sortes de choses. On peut activer ces réserves et en faire donc, de toute façon, des représentants de l'armée et des diffuseurs de ce qu'ils appellent l'esprit de défense. Donc là, moi, j'utilise les termes qu'ils utilisent parce que c'est les termes qu'on retrouve. Voilà. Donc, ils ont besoin de ce consentement de la société et ils ont besoin de toucher les jeunes pour ça. Donc, le SNU, pour ça, répond aussi, puisqu'il y a plein de jeunes qui vont revenir du SNU en disant « Oh ben moi, c'était plutôt sympa, j'étais avec des gens chouettes ». Parce qu'il faut quand même savoir une chose, c'est que la plupart ne seront pas directement encadrés par des militaires sur l'intégralité du séjour. Donc, ils verront quoi des gens de l'éducation populaire qui, ils ont...
Il faut pallier le déficit des encadrants.
Voilà. Et du coup, il faut vraiment comprendre qu'individuellement, un jeune peut avoir pris plaisir à un séjour de cohésion, même si ça nous échappe, parce que, vu ce qui est proposé,
c'est
faut quand même...
C'est une colo sympa. Ça peut être vécu vraiment comme une colo
mais
sympa,
y en a
gratuite.
Qui, c'est une réalité, il y en a qui reviennent contents. Mais il faut justement décrypter les choses et leur dire à quoi ils participent, et surtout aux parents, aux adultes qui sont autour, pour dire... vous faites attention aux écrans pour vos enfants, vous faites en sorte qu'ils ne fument pas, j'en sais rien. Donc, faites attention à ce qu'ils n'aillent pas trop du côté militaire, parce qu'on rappelle quand même que les militaires, ils veulent recruter pour aller tuer des gens, quoi. C'est pas autre chose.
La chair à canon un peu, quoi.
Oui.
Madeleine.
Alors, simplement pour continuer là-dessus, une petite remarque par rapport à tout ce que vous avez dit, parce que ça nous fait plaisir de mettre toujours un peu les choses en regard avec d'autres actualités. Sur cette histoire de colonie sympa, on se manquera pas de dire que d'ailleurs les séjours qui sont proposés par les mairies, les municipalités, etc., qui étaient censés revenir peu cher, sont de moins en moins nombreuses, il y a de moins en moins de places. Et donc il y a une espèce de transfert, ce que vous avez l'air de décrire, c'est un transfert des activités en réalité, et notamment un transfert des activités activités dirigées vers la jeunesse, notamment encadrées par des personnes plutôt de l'action civile pour de vrai et qui ont des formations pour ça. Donc il y a cette histoire de colonie, mais il y a aussi cette histoire-là, par exemple, quand vous revenez sur la PJJ, nous, on va se faire un plaisir de dire que la PJJ était en mouvement et cherche à se mobiliser ces dernières semaines, notamment parce que il y a des coupes budgétaires de moins en moins de personnes et que leurs conditions de travail sont extrêmement compliquées. La PJJ, c'est quand même une formation qu'a à voir avec l'éducation populaire, qu'a à voir avec le social, c'est d'anciens assistants sociaux même, etc., qui vont normalement devoir faire ce travail. Et évidemment, de le transférer à des activités militaires, on se doute que ça va pas donner la même chose, hein, et que la posture est pas exactement la même vis-à-vis de cette jeunesse. Et par ailleurs, on a l'impression d'un espèce de recul en arrière, puisque sur cette question des réservistes, en réalité, à l'époque du service militaire, de nombreuses personnes ont effectué leur service militaire dans des actions plutôt civiles, en réalité, et donc n'étaient pas nécessairement en brigade, etc., mais faisaient de l'animation, gardaient des enfants, et donc apparemment, je ne sais pas, peut-être que ça a créé un manque à gagner au niveau de l'État, qu'il aurait fallu donc investir, mais au moment où le service militaire a disparu, eh bien, il n'y avait déjà plus, en fait, cette nouvelle réserve gratuite, quelque part, qui était là, et il semblerait que le contrat d'engagement suivant, le SNU, puisse parvenir à aider à remplir ce nouveau trou, aussi bien qu'on a pu le voir, notamment avec les notions de service civique, etc., etc. Donc, oui, pourquoi pas, hein ? On les apprend à être citoyens en travaillant gratuitement avec des personnes qui ne sont pas formées. Formidable, grosse rentrée.
Juste pour rebondir, sur les financements justement, il faut savoir que le SNU est financé sur une ligne budgétaire dédiée à l'éducation et à la jeunesse, puisque ça dépend, c'est une ligne qui sert normalement au séjour et à ce qui peut servir pour l'éducation populaire. Donc c'est important de savoir que l'argent est pris et effectivement les effectifs d'encadrement des SNU sont pris sur des gens qui ont autre chose à faire et qu'ils le font très bien par ailleurs. Et là, vraiment, on dévoie un système au profit d'aspects militarisants. Et sur la SNU, il faut savoir aussi une chose, il y a une journée qui est complètement dédiée à l'armée et qui est encadrée et dont elle est conçue, encadrée et gérée par le ministère des Armées. Donc c'est une journée qui s'appelle la JDM, qui est obligatoire sur le séjour du SNU.
Journée défense et mémoire.
Voilà, oui. Et voilà, donc c'est important de savoir que les militaires ne sont pas loin, même si vos enfants ne les voient pas sur le séjour.
Et c'est une journée où le militaire référent fait ce qu'il veut, quoi. Puis en fait, nous, même moi en tant que prof, je ne sais pas trop le contenu du séjour de cohésion. Les jeunes raconte pas grand chose, et puis c'est pas. Il y a 3 jours qui peuvent être encadrés par un enseignant de la classe engagée, c'est une possibilité, mais ça fait que 3 jours sur les 12, et les profs qui ont signé pour la classe engagée ne vont pas du tout au séjour. C'est possible aussi, donc il y a quand même une opacité forte, quoi.
Eh bien, on va faire une pause musicale et on vous retrouve tout de suite après dans l'actualité des luttes.
Bonne conduite, ils te font la bonne conduite, bonne conduite. la personne que l'on déplore. D'une secte de vétards, tu fais tâche dans le décor. Pas droit à un écart, t'es fliqué dans les transports. T'es noir, on veut voir tes poches et ton passeport. Respecte le brassard, respecte le drapeau. Reste dans ton enclos pour cafard et puis crapaud. Le monde est un sens unique, ils votent pour une seule tunique. Déteste ton poupou, ton voile sur la voie publique. T'as les os qui craquent sous les coups de la PAC. T'es chanceux, t'es en vie, c'est un vrai miracle. Tu n'es qu'un bistec, que ces bords dissèquent. Y'aura pas de pare-feu, on t'éteint direct. On te croit inapte, on te veut inerte. C'est soit tu t'adaptes, soit tu signes ta perte. Il existe une norme, tu dois juste l'admettre. Il existe une norme et tu dois juste l'admettre. Bonne conduite, il te faut la bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite, bonne conduite.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'actualité des luttes sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM jusqu'à 13h30. Et aujourd'hui, on va se tenir justement sur cette émission sur le service national universel, 5 ans après. Dans cette première partie, on a posé un petit peu le décor, la création un petit peu de SNU. Et là, on va passer sur les suites parce que, voilà, pour l'instant, c'est toujours là. La ministre en a un petit peu parlé puisque elle avait un petit peu déclaré la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Elle disait que bien en septembre dernier que il fallait un petit peu que dans la souffrance, la discipline et les rites, que le SNU peut être un fondement un peu, que ça peut être un fondement de l'éducation. Donc voilà un petit peu la vision qu'en a aussi le pouvoir actuel. Et donc voilà, ça pose aussi un peu la suite de ce service national universel.
En fait, je pense que la suite ne peut pas être envisagée sans qu'on comprenne bien ce qui est à l'œuvre. Parce que SNU ou pas SNU, c'est ce qui est à l'œuvre derrière qui va permettre de lutter contre le SNU. Le SNU, c'est un objet politique qui va subir des effets d'annonce, qui va être des fois valorisé, des fois, bah voilà, si ça marche pas, ça marchera pas. En fait, ça va toujours être un effet d'annonce avec peut-être une réalité derrière. Mais s'il est pas là, la réalité que nous, au sein du collectif, on a pu faire émerger, elle est toujours là. Et c'est ça qu'il est important de comprendre pour pouvoir réagir de toute façon, qu'il y ait des effets d'annonce sur le SNU ou pas. Parce que actuellement, il y a des choses à l'œuvre dans l'éducation nationale et auprès de la jeunesse, que ce soit par le biais de l'école ou pas. Si on n'a pas capté ça, si on n'a pas compris ça, si on n'a pas identifié tous ces mécanismes-là, on passe véritablement à côté de la réalité de ce qui se passe actuellement. Quand on parlait tout à l'heure des réserves, il faut savoir que la loi de programmation militaire 2024-2030 a acté un besoin de réserve et des objectifs chiffrés avec un aboutissement à 105 000 recrutements sur la réserve opérationnelle, donc celle qui va aller sur le terrain, d'ici 2035. Il faut savoir que ce qui se profile, c'est un réserviste pour deux militaires de l'armée d'active. Donc ça, c'est l'objectif. Maintenant, pour réussir à réaliser cet objectif, eh ben, il faut recruter. Et il faut infuser dans la société le fait qu'être recruté par l'armée, c'est bien. Donc ils savent très bien qu'ils veulent toucher les jeunes, donc on en revient au truc du SNU. Et donc derrière, le SNU Nous, donc, on a mis en place une cartographie des liens armée-jeunesse. Notre cartographie, elle fait 3 mètres.
Elle était impressionnante. Hein.
Elle est impressionnante.
À la Bourse du Travail, l'année dernière, c'était la première fois que je faisais quelque chose de matérialisé comme ça. Quoi.
Bah, on a eu besoin, justement, quand on a commencé à découvrir tout ce qu'il y avait derrière, de le matérialiser, de le montrer. Donc, il fallait que ce soit grand pour montrer que c'est... Voilà. Mais pour dire que sur ces 3 mètres 40 sur 2 mètres 60... Le SNU fait 30 cm, quoi. En fait, nous, ce qu'on a montré et ce qu'on continue à essayer de faire circuler comme information aussi et de conscientiser aussi les gens là-dessus, c'est de dire le SNU, c'est une partie très moche et qui, si elle se met en place, est très moche. Mais en attendant, il y a plein de choses qui sont mises en place dans l'indifférence générale.
C'est discret, voilà.
C'est discret. En fait, les militaires ont l'argent...
Les structures, les lieux.
Ils ne sont pas attaqués par les syndicats là-dessus, ni par les enseignants. Il n'y a pas de conscientisation de cette nébuleuse.
Ils ne payent pas leur loyer non plus.
Militaire. Voilà. Il faut quand même savoir que, par exemple, un exemple tout bête dans la société, il y a une mission cinéma, par exemple, de l'armée. Le bureau des légendes en est une des émanations. C'est-à-dire qu'en fait, ils payent. La série, le bureau des légendes. En fait, ils ont compris qu'il fallait qu'ils touchent les gens dans la société. Et donc, ils financent énormément de choses un peu partout, sur l'école et en dehors, pour toucher ces jeunes. Et ça, ça existe, qu'il y ait SNU ou pas. L'armée a une organisation au sein de l'éducation nationale.
Il y a des militaires qui vont, je crois, comme les gendarmes, d'ailleurs, qui vont dans les classes.
Alors, il y a plusieurs occasions pour les militaires d'aller dans les classes. La classe défense et sécurité globale qui peut être évoquée ici. C'est un dispositif donc, où un enseignant ou le ou la proviseur inscrit une classe. C'est une classe sécurité et défense globale. Les élèves découvrent à la rentrée qui font partie. Et la classe est liée pendant un an à un corps en uniforme local, la gendarmerie du coin, les pompiers, si on n'est pas, il faut que ce soit des militaires. L'unité locale militaire du coin. Et ils font des choses ensemble. Les militaires viennent dans les classes, présentent des choses, signent la convention. On avait trouvé une photo de militaires qui signent la convention dans une salle de classe. Et leur gros truc, c'est les cérémonies mémorielles, parce que c'est important. On célèbre les héros, la guerre. La guerre dans son versant positif, finalement, qui nous a sauvés de bien des choses.
En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la loi de 97, là, dont on a parlé tout à l'heure, qui suspend l'appel sous les drapeaux, mais qui garde donc le recensement et la JDC. D'ailleurs, pendant la JDC, on en reparlera, mais les jeunes sont des appelés du contingent. Ils sont sous l'autorité militaire. Journée défense et citoyenneté. Donc la loi de 97 qui suspend donc l'appel sous les drapeaux a un autre point d'entrée qui est, du coup, comme on professionnalise en 97 l'armée, eh bien, on va propager l'esprit de défense autrement. Et donc, on va rendre dans la loi obligatoire l'éducation à la défense. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Ils ont émis plein de projets pédagogiques et plein de choses, et notamment même dans les manuels scolaires, il y a plein de dérivés à ça, pour que les jeunes puissent avoir cette instruction à la défense. Et donc, ça ressort par des sujets, par exemple, par une façon d'aborder certains pans de l'histoire. Donc, les profs d'histoire-géographie sont la porte d'entrée principale pour cette éducation à la défense. Et donc, ça, c'est officiel, c'est ancré. C'est pas une interprétation de militants qui voudraient voir des militaires partout.
Oui, c'est concret, quoi.
C'est concret et c'est légal. Et il faut savoir aussi que, donc, il y a cette loi de 97. Mais il y a donc au sein de chaque académie, donc il y en a 33 en France, ce qu'on appelle des trinômes académiques, qui sont donc
une association entre le rectorat, un militaire et un représentant de l'IHEDN, c'est ça, l'Institut des hautes études défense et il me manque le défense nationale.
La défense nationale,
je suis pas sûr.
Ça peut.
Mais donc, ça veut dire que la tête du de l'académie, le recteur ou la rectrice, est liée officiellement avec un militaire et un représentant de cet institut pro-militaire. Et c'est quelque chose que les professeurs ignorent très, très largement. Moi, j'ai appris ça en étant collectif. Hein. Et ces gens-là réfléchissent à des dispositifs concrets et à des financements au sein de l'académie, dans tous les établissements et écoles de l'académie en question.
Alors, petite parenthèse, est-ce que quand même dans l'éducation nationale, au niveau des syndicats, ça réagit un peu ou pas ou...
Non, c'est pas un sujet. Le SNU a fait produire quelques papiers. Ouais. Et moi, c'est ça qui m'a fait venir, le SNU, ce collectif qui fait une première réunion. Mais non, sinon, c'est un impensé. Ce qu'on essaie de faire dans nos rencontres, nos réunions publiques, c'est de montrer aux enseignants qui sont présents qu'il faut être vigilant vraiment sur les sources des financements qu'ils sont contents d'avoir. Il faut regarder de partout, parce que tout peut être, une source militaire. Le pass culture dont bénéficient les jeunes, ils ont une part individuelle, mais ils ont aussi une part collective. Ouais. Si l'enseignant fait une sortie, moi je fais des sorties au théâtre, j'inscris les élèves et c'est l'établissement qui paye la sortie. Donc c'est très bien, c'est pris en charge. Mais c'est pour ça que je vais plein de sorties au théâtre, parce que pour vider le budget, parce que sinon ça peut être pris sur des défenses mais qui ont l'air très bien par ailleurs, de lieux de mémoire auxquels les enseignants inscrivent leurs élèves sans penser à mal. Quoi.
En fait, ce qui est à l'œuvre derrière, et ça se voit par cet aspect-là notamment, c'est que l'armée est en train petit à petit de suppléer à des missions de l'éducation nationale et de l'éducation populaire. Donc clairement, c'est l'armée qui prend en main maintenant des missions qui sont normalement liées totalement à l'éducation nationale. Ou
d'éducation populaire aussi ?
Bien sûr, puisque de toute façon, elle utilise ces financements-là pour le SNU, okay. par exemple, et puis qu'elle met des moyens. Mais donc, en fait, ce que nous, on appelle bien commun, solidarité, vivre ensemble...
Cohésion.
Non, justement, ce que nous, on appelle D'accord, comme ça, oui. l'armée s'en empare pour dire, nous, en fait, ce vivre ensemble-là, c'est la cohésion nationale. Et en fait, l'armée, mais vous allez reconnaître la Macronie là-dedans, c'est de dire, pour la paix, il faut qu'on soit préparé à la guerre pour maintenir la paix.
Pour préparer la paix, prépare la guerre.
Voilà, et si on veut être, si vous voulez être libre et avoir l'esprit critique... Alors, il faut être sous notre autorité, parce que nous allons vous apprendre l'esprit critique. Mais quand on lit, ils y croient, hein. C'est assez terrible et terrifiant. Mais c'est pour vous dire qu'il y a vraiment ça qui est à l'œuvre, et ils y mettent les moyens. Et le problème qu'on a, c'est qu'ils sont pragmatiques, en fait. Eux, ils sont pragmatiques, ils se disent, nous, on a l'argent, l'éducation nationale ne l'a pas. Les profs, ils ont besoin de fric pour faire leur projet. Attendez, nous, on va être là. Et ils le font avec la complicité... et l'autorisation de l'éducation nationale. Et donc, il y a énormément d'enseignants qui ne savent pas obligatoirement qu'ils utilisent des dispositifs qui sont soit clairement fléchés depuis le ministère de l'Armée, soit par un moyen ou par un autre utilisé par le ministère de l'Armée. Et nous, c'est vraiment ça qu'on a besoin de travailler. Donc, il faudrait que les syndicats et ceux qui sont opérants sur les luttes et tout ça, en prennent vraiment conscience. Parce que là, c'est terrible ce que nous, on découvre jour après jour dans les dispositifs qui sont mis en place et dans l'argent qui est déployé pour ces dispositifs-là, en fait. Ouais. Dans l'indifférence quand même et dans le silence quand même assez général sur tout ça.
Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants, d'enseignantes qui ne savent pas, effectivement. Mmh. qui sont de bonne foi à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Enfin, Mais il y a aussi la résignation ambiante. Il y a aussi le fait qu'on ne trouve pas d'argent pour faire des choses intéressantes. Donc, il y a aussi le « faut faire avec ».
Un mécène,
c'est comme
ça. C'est une forme de mécène un peu qui arrive.
Je pense qu'il y a aussi une forme de... Même si on peut être un peu conscient des choses, mais être dans le déni ou se compromettre, en fait, et penser que ce n'est pas si grave parce que c'est bien la classe à bénéficier de telle ou telle chose et que, c'est pas, que la conséquence n'est pas si lointaine que ça. Quoi. En fait, il y a ça aussi. On le voit plus largement sur d'autres sujets, hein. Il y a cette résignation-là.
Madeleine.
Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à reprendre le temps de discuter avec des professeurs de qu'est-ce que c'est que le métier de professeur et la mission pour essayer de se redonner un peu de la force aussi sur des questions de pédagogie et de rapport aux élèves. De fait, tout est fait au niveau des conditions d'exécution du travail pour que ça pousse à une forme de résignation, à une fatigue, à une difficulté tout simplement de faire son métier. Est-ce que c'est pas de ce côté-là qu'il faut aller chercher, c'est-à-dire réenchanter aussi un peu ce travail, cette mission, et dire ben non, mais en fait on va se battre pour faire notre métier et pas un autre, et en fait on va pas quelque part laisser nos enfants, parce que c'est les enfants de tout le monde, la jeunesse, dans les mains de cette machine qui les broie à tout niveau, puisque par ailleurs on aborde régulièrement dans cette émission la diversité des problématiques auxquelles doit faire face cette jeunesse sans aucune arme.
Je suis complètement d'accord, mais pour ça, il faut absolument que soient identifiés ces mécanismes. Et le problème, c'est qu'ils ne sont pas identifiés, car difficilement identifiables. Et nous, tout notre travail, justement, c'est de décrypter ça et de dire « attention, danger, là, voilà ce que c'est ». Mais c'est un travail assez chronophage, on va dire. Il faut se frapper beaucoup de vidéos de militaires et de rapports qui font 200 pages pour essayer de comprendre la mécanique qui est derrière. Et je voudrais juste vous lire un truc pour montrer l'ampleur de la façon dont ils veulent s'emparer aussi des esprits et de l'imaginaire. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait une mission cinéma, par exemple. Donc ça paraît comme ça, bon voilà, ils financent.
Ludique un peu, le côté ludique.
En fait, et ils ont clairement des objectifs, hein, d'utiliser les mangas. En fait, ils vont là où sont les jeunes, ils savent que voilà, les influenceurs, etc., pour se dire comment on va petit à petit tourner les esprits. Et là, par exemple, dans le rapport, donc c'est un rapport d'information qui a été fait en mai 2024 de deux super députés qui adorent l'ordre et le pouvoir, hein, donc tout ce qu'on aime. Et donc, je vous dis ça parce que j'ai trouvé ça très, très fort. Les industries culturelles et créatives, cinéma, séries, bandes dessinées, jeux, vidéos, etc., constituent des médias très plébiscités par le grand public. Lorsque ces industries culturelles et créatives s'emparent de l'objet défense, elles contribuent à forger un imaginaire commun à grande échelle à travers la représentation de certaines valeurs de cohésion, de courage, d'esprit de corps et d'engagement. L'entrée de la défense dans le champ culturel sans aucun contrôle de l'État sur les contenus capitalisera sur le plus puissant des vecteurs, l'imaginaire. Voilà. Ouais. Mais ils sont aussi pragmatiques et ils ont...
Et j'utilise tous les moyens modernes, numériques, réseaux sociaux. Tu parlais d'un mission, les gens...
Les influenceurs,
oui.
Non.
Le feuilleton,
le bureau des légendes.
Le bureau des légendes, voilà. Ah oui. Donc, effectivement, ils utilisent tous les moyens possibles à leur disposition.
Ben, ils utilisent les moyens. Comme ils n'ont pas de contraintes de temps et d'argent, c'est assez pépère tranquille, quoi. Ils y vont tranquillou, hein. Nous, on est là en train de s'agiter, de regarder des trucs pas possibles et tout, mais eux, oui, ils ont les moyens. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils sont pragmatiques, ces militaires. Et donc, ils se disent, bon, la jeunesse, on la connaît mal. Ils font des études, hein. Ils voient, la JDC, la journée défense et citoyenneté. Les jeunes ont... on n'a pas réussi à bien capter les jeunes, ils font des sondages, des machins, et donc et des rapports, parce qu'ils ont des sociologues, des machins qui vont bosser pour eux, et donc ils se disent on la connaît mal, donc il faut qu'on la connaisse mieux, donc ils mettent des choses en place pour mieux connaître la jeunesse. Donc ils ont par exemple une commission armée jeunesse qui est un organe qui existe depuis 1955, où ils ont à disposition une centaine de fédérations d'organismes
d'associations diverses
liées à la jeunesse, dont des organismes qu'on connaît très bien et qui sont dans l'éducation populaire, des syndicats, plein de gens qui ne savent même pas toujours qu'ils font partie de ce truc-là.
Parce qu'il y en a qui... syndicats enseignants, des fédérations de parents, des mutuelles de la jeunesse aussi.
Hein. Voilà. D'accord. Et on sait que, par exemple, la PEP en fait partie. Quoi. Il y en a plusieurs qui elles, sont actives dans cette commission. Cette commission d'armée...
Tu veux dire active partie prenante ?
Partie voilà. prenante. Et parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont créé des groupes de travail. Et chaque année, ils ont une mission sur laquelle ils vont travailler. Et ils se disent, on veut mieux connaître la jeunesse. Par exemple, comment mieux influencer la jeunesse et il y a plein de choses. Et donc, ils vont faire des groupes de travail. Ils vont mettre des gens à contribution pendant un an. Ils se réunissent tous les mois et ils vont pondre des recommandations. Et là, par exemple, un des groupes, leur dernière trouvaille de l'année, donc c'est merveilleux, c'est de dire, il faut qu'on crée plus de liens avec les industries de l'armement. comment on peut faire des passerelles entre jeunesse. Et donc, ils vont utiliser les stages de troisième, plein de choses pour se dire, nous, ce qu'on veut, c'est montrer que, par exemple, bah, l'industrie de l'armement, c'est trop chouette et tout. Et bien, un jeune de troisième qui se retrouve dans un endroit où il va bien bouffer, où on va l'accueillir comme un petit roi et tout
ça. Les stages collectifs, souvent, avec les copains, voilà.
Ils savent très bien séduire la jeunesse parce qu'à un moment, ils sont là. Et là où... en fait, moi, j'ai vraiment l'image... Du mec où on nous disait surtout s'il y a quelqu'un qui t'attend avec un paquet de bonbons, ne le suis pas et tout. Et moi j'ai l'impression que c'est ça, c'est l'inconnu qui t'attend au bout de la rue qui fait regarde, j'ai des bonbons pour toi et puis des images et des films super et des mangas et des machins. Et les militaires ont compris ça et personne ne leur met de bâton dans les roues en fait actuellement. C'est ça le problème. Donc le SNU, il faut batailler contre, il faut l'avoir en tête, mais s'il vous plaît quoi, le jour où le SNU est abandonné, continuons le combat pour arrêter la militarisation de la société. La jeunesse est un instrument pour militariser la société et pour gagner l'opinion publique sur « c'est cool un uniforme ». Et il faut savoir que aussi, c'est aller chercher la jeunesse en difficulté pour dire « ouais, la société vous offre aucun avenir, mais nous, vous allez bien bouffer, vous n'allez pas vous poser de questions sur l'orientation, on a tout ce qu'il vous faut et on a des boulots clés en main ». Et là, ils sont en train de jouer là-dessus. Et ça marche.
Et puis les militaires sont très présents, il suffit de se prendre les transports, ils sont 4 à 4, 8 à 8 en train de se balader avec FAMAS, en train de porter un FAMAS. Donc ça aussi, ça, c'est un peu comme la prison, c'est-à-dire on voit les aménagements rénovation urbaine avec des barreaux et tout ça. Bah, là c'est pareil, les militaires aussi, ils sont dans la rue, donc il faut aussi avancer ce truc-là.
Bah, une sorte de « there is no alternative », quoi. Ouais. On ne peut pas faire sans, c'est,
voilà,
c'est
bien. Ils sont incontournables.
Tout à l'heure, je voulais dire, ils ont besoin de recruter dans tout type de métier. Ce n'est pas seulement des militaires entrés. Ils ont besoin de tout type de personnel, comme les médecins, par exemple. Oui, qui, voilà.
Et d'ailleurs, en augmentant les réserves opérationnelles, c'est à la fois pour eux des gens en plus, donc un nombre du chiffre en plus, mais c'est aussi des compétences en plus. C'est-à-dire que pour eux, plus ils brasseront large, plus ils auront des compétences supplémentaires sur le cyber, ça marche vachement, ah oui. Et du coup les jeunes peuvent être très
tentés, évidemment.
Très tentés. Ça, et donc ils utilisent beaucoup les prix et les concours. Donc attention, quand vous êtes en école élémentaire, au prix et au concours, il y en a énormément. Et quand c'est lié à la mémoire, on peut être à peu près sûr que le ministère des Armées est en...
élémentaire.
Oui. En élémentaire.
Ah oui, oui. Il y a les noms sont charmants, c'est bulle de mémoire par exemple, c'est lié sur la BD, mais il faut raconter des choses liées au patrimoine militaire.
D'accord.
Ou encore les petits artistes de la mémoire, c'est charmant, c'est vraiment même pour l'enseignant. Enfin, il n'y a pas de jugement sur mes collègues, quoi. C'est tentant d'eux, surtout qu'il y a des prix sympas, une sortie, voilà.
Ouais. Parce qu'à chaque fois en fait, qu'ils ont l'opportunité d'être en face d'un. En fait, ils ont besoin de moments. D'opportunités pour être concrètement en face d'un jeune. C'est-à-dire qu'il faut un moment qu'il y ait la rencontre physique qui se fasse. Les lieux de mémoire, pour eux, c'est un moment très important. Soit dans le projet pédagogique qu'ils vont donner clé en main à des enseignants avec, voilà, c'est super, des images d'archives et tout, mais qui sont des choix de militaires orientés. Parce qu'ils racontent un récit aussi. Hein. C'est tout le récit national porté par des militaires quand même qu'on a. Donc avec tout ce que ça peut... par exemple, on sait très bien qu'il y a des guerres ou des choses qui se sont passées, des événements qui vont être complètement invisibilisés parce que ça les arrange pas, que ça va pas dans le récit qu'ils ont envie de produire.
Ben un exemple, par exemple, là, l'année dernière, donc 1923-2023, la flamme du souvenir fête son centenaire.
Ouais.
Exemple. Madeleine.
Moi, j'étais partie sur l'exemple tout simplement du 17 octobre prochain. 1961. Je me demande s'il va y avoir un joli petit concours bulle de mémoire pour toutes ces personnes qui ont bravé le couvre-feu et que les militaires ont jeté à la Seine et tout simplement tué. Donc oui, effectivement, il y a une question de roman national, en fait, de repartir sur une idée de roman national et donc d'utiliser effectivement cette jeunesse déjà de l'enfermer par un principe de socialisation qui est quand même un peu triste. Effectivement il n'y a pas d'autre alternative, c'est tout ce qu'on te propose, et puis par là aussi de reconstruire en fait aussi des romans nationaux qui servent bien les discours ambiants actuellement et donc évite toute remise en cause de l'histoire, mais tout simplement aussi de l'ordre social dont on hérite, en fait, et dans lequel on grandit. Donc pourquoi est-ce qu'on le remettrait en cause ? Il est comme ça, il va se reproduire, il est de tout temps, c'est le seul possible. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez effrayant, en réalité, le tableau que vous décrivez de tout cela, notamment aussi parce qu'il est pernicieux, et parce qu'il passe à travers des questions de financement d'activités qu'on sait qui sont de plus en plus réduits.
Quand même, par rapport à la suite, ce qui nous attend, donc le SNU va peut-être être généralisé, mais on craint quand même que ce soit très compliqué. Il se heurte à beaucoup de problèmes logistiques. Il y a beaucoup de problèmes aussi légaux, parce que sur le temps scolaire, ça veut dire qu'on rend obligatoire sur le temps scolaire. Quand il y a des problèmes de sujétion aussi, donc faut repasser par une loi. C'est-à-dire que actuellement,
à partir du moment où il y a une nuitée en jeu, il faut que les parents autorisent. Donc déjà, c'est un premier frein, c'est ça que tu voulais dire.
Il y a ça, et puis il y a le fait aussi que si on veut rendre obligatoire quelque chose, il faut que ça soit en rapport avec la défense nationale, et il faut que ce soit des citoyens, donc des plus de 18 ans. Quoi. Il y a beaucoup de problèmes, en fait, législatifs, etc. Par contre, il y a déjà, par exemple, dans le rapport dont je vous parlais tout à l'heure, il y a déjà plusieurs personnalités, on va dire, politiques et des militaires qui disent bah, peut-être qu'on peut aller vers un service militaire à nouveau. Et donc, il y a des espèces de trucs hybrides qui vont chercher à gauche et à droite. Donc là, par exemple, ils ont proposé ils disent, bah, et tiens, et si on s'inspirait du modèle suédois ? Le modèle suédois, c'est en gros 100 000 jeunes. Il y a 100 000 jeunes qu'on va, on va recenser, on va leur poser des questions. Là, on va faire un premier tri en disant, non, bah, ça, il n'a pas l'air très bien dans ça, ça ne va pas. Hop, on écrème. Il reste 28 000 jeunes. Sur ces 28 000 jeunes, on va leur faire passer des tests. D'abord, il faut dire que si vous avez mal répondu, si vous avez dit quelque chose qui n'était pas vrai, vous aurez une amende. Donc déjà, on met le côté un peu là, attention ouais. quand même, où on met les pieds. Ces 28 000 jeunes, on va leur faire passer des tests. Et s'ils ne sont pas probants, en fait, on va prendre les meilleurs. Hein, c'est toujours aussi le culte de l'efficacité, de la performance et tout. En même temps, qui voudrait être le meilleur dans ce cas-là ? Mais bon, bref, 8 000 de ces jeunes vont finalement partir en service militaire. Et en fait, il y a vraiment donc quand même, de toute façon, il faut s'attendre à ce que la jeunesse soit sollicitée, soit...
Les contributions, quoi.
Et soit à la fois mise au pas avec, de toute façon, un autoritarisme derrière. Et on le voit, de toute façon, dans la répression qui peut avoir lieu sur les manifestations, surtout. Quoi. On sait très bien que la répression, elle est beaucoup plus forte.
Puis elle est multiforme aussi, hein, du coup, elle est multiforme.
Elle est multiforme. Et donc, le SNU, bah, nous, on va suivre et on va voir, et les gens vont être attentifs. Mais va falloir vraiment être attentif au reste et au fait qu'il n'y aura peut-être pas... Les militaires ne vont pas seulement utiliser... vous l'aurez compris, le truc d'autorité par rapport aux jeunes. Ils vont utiliser la séduction. Donc, il faut être attentif à ça. Et pour ça, c'est rappeler à chaque fois ce qu'est un militaire, ce qu'est la guerre, et que quand un militaire est sympa, c'est que derrière, on rend quoi sympa, quoi ? Et qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants ? Qu'est-ce qu'on veut pour cette société ? C'est ça qu'il faut interroger. Et donc, le SNU, c'est la face... médiatique émerger, l'objet politique qu'on va brandir à chaque fois. Derrière, il y a une vraie idéologie, mais aussi pragmatique. Donc, voilà.
D'autant que les militaires sont aussi omniprésents sur les médias. Alors, juste pour terminer, avant de lancer la suite, comment on peut vous retrouver pour pouvoir continuer cette mobilisation et cette lutte aussi, parce que c'est une lutte aussi. Hein. Alors, comment on peut retrouver pour se mobiliser ? Est-ce qu'il y a des pistes ?
Alors, on a une adresse mail, c'est collectif non au SNU-IDF, c'est le tiré du 6, collectif non au SNU-IDF, @mailo.com. Et on a des réunions toutes les deux semaines à l'EDMP, un passe Crozatier à Paris. Alors, c'est le collectif Île-de-France. Hein. Voilà, on est un petit groupe à se réunir tous les 15 jours. Donc, il ne faut pas hésiter à nous écrire sur l'adresse pour avoir des précisions. Sur ce calendrier, et on essaie au moins de faire un travail de veille, des tractages et avoir des contacts aussi avec d'autres collectifs en France qui sont actifs comme ça.
Et si nous, on est déjà allé présenter la cartographie, on a participé aussi à des même à des stages même syndicaux ou pas. Vous êtes, ça peut être aussi le présenter. En fait, on a besoin d'outiller. Donc, même si des jeunes, des lycéennes, lycéens ont besoin d'être outillés, qu'on ait des échanges et qu'ils puissent après eux-mêmes... En fait, les militaires sont de très, très bons exemples pour ça. Non, c'est comment infuser tout ça. Mais bon, bref, c'est pour dire que ça peut être aussi présenté à d'autres collectifs militants parce qu'en fait, ça croise les violences policières, ça croise beaucoup de choses. Et donc, finalement, tout est lié dans cette société puisqu'on on sait très bien ce qui est à l'œuvre et que finalement... On est toutes et tous à un moment à la croisée, à l'intersection des luttes de toute façon. Donc si on peut présenter aussi tout ça, échanger, on est ouvert à toute proposition, demande et voilà.
En tout cas, merci pour ces explications, parce que je crois que c'est important de les avoir et d'avoir aussi ce qui se passe aussi derrière. Bien, je fais la transition avec Madeleine.
Écoutez, ce qu'on va faire en plus de vous remercier, c'est tout simplement de terminer cette émission avec d'abord une petite prise de parole de la jeunesse à qui on aime laisser la place et ensuite un petit rendez-vous.
Vous avez capté qu'ils veulent nous interdire de parler de la Palestine dans nos facs là ? En gros, le ministère, ils ont sorti un communiqué aujourd'hui dans lequel ils accusent qu'il y ait des prises de position politiques dans les universités, en gros sur la Palestine. Et après, ils développent comme quoi les présidences d'université doivent faire attention au maintien de l'ordre public, prévenir le procureur pour quoi que ce soit, faire attention aux atteintes à la laïcité et à la neutralité des établissements. Là, les amis, on nage en plein délire, je sais pas moi, mais déjà, l'année dernière, ils ont ramené des keufs sur tous les campus des facs pour empêcher qu'il y ait des mobilisations pour la Palestine qui commencent, mais là, carrément, ils veulent nous interdire de parler. Tout, ils disent, il faut maintenir la neutralité des facs, je sais pas quoi, mais déjà, à quelle heure elles sont neutres, nos facs, quand elles ont des partenariats, soit avec Israël, soit avec des entreprises qui participent au génocide? Ça, c'est pas de la neutralité, c'est de la complicité, ça s'appelle. En vérité, les amis, c'est très grave ce qui est en train de se passer dans les facs, et surtout, ça dépasse même la question de la Palestine, parce que eux, leur but, c'est nous empêcher de parler d'impérialisme, c'est nous empêcher de dire ce que fait la France à l'international, en Kanaky, en Guadeloupe, en Martinique, etc., et de dénoncer que la France est un État colonial. Moi, j'ai un petit message pour le nouveau gouvernement, parce que après, vous pouvez essayer de nous réprimer, de nous faire taire et tout, mais nous, on n'arrêtera jamais de parler de la Palestine, ni du Liban, ni de la Kanaky, ni de tous les peuples opprimés, en fait, tant qu'ils seront encore soumis à la colonisation. Et vous n'avez pas le choix.
Vous êtes toujours dans l'actualité des luttes, et on aime terminer des émissions en disant que vous ne musellerez pas la jeunesse s'exprimera, que vous le vouliez ou non. Alors, on termine cette émission aussi en vous diffusant un rendez-vous qui aura lieu demain, donc jeudi, à 16h30, devant l'hôtel de ville, sur la place Saint-Gervais, à l'occasion du Conseil de Paris. Ce rendez-vous, c'est pour les mineurs isolés en lutte. Alors, comme il nous reste une petite minute tout de même, je vous informe des raisons pour lesquelles on vous appelle à vous y retrouver. Je vais donc lire une partie de leur appel. Eh bien, donc, cette année, nos actions ont permis d'arracher 650 places d'hébergement à la ville de Paris. En parallèle, notre mobilisation avec le syndicat Sud Éducation a permis la scolarisation de plus d'une centaine d'entre nous. Nous sommes désormais soutenus par des syndicats, des collectifs, des élus, et nous avons créé une coordination nationale de mineurs isolés en lutte, réunissant les villes de Marseille, Lille, Clermont-Ferrand. Mais ce n'est pas assez. Plus de 200 jeunes en recours survivent actuellement dans les campements à Porte de la Villette, Saint-Méry et Pont-Marie, à quelques centaines de mètres de l'hôtel de ville. Cette même mairie a montré ces derniers mois qu'il était possible d'héberger les jeunes laissés à la rue par le dispositif d'évaluation de minorité dont elle est en charge. Pourquoi recommence-t-elle à faire l'aveugle face à notre situation ? Le nombre de places libérées dans les gymnases suffirait à toutes et tous nous sortir de la rue. Ceci relève donc d'un choix politique de la mairie de Paris, qui en plus de nous laisser en errance, ignore les demandes de rencontres. Nous exigeons donc l'intégration immédiate de tous les mineurs isolés à la rue dans les gymnases et à terme, la création d'un centre d'accueil ouvert pour les héberger et accompagner tous les mineurs isolés. Dans le contexte actuel, les mairies qui se proclament de l'opposition se doivent d'appliquer réellement les valeurs de la solidarité, de l'accueil et de l'égalité des droits. Pour cela, nous appelons à un rassemblement ce jeudi à 16h30 sur la place Saint-Gervais, donc devant l'hôtel de ville.
C'était l'actualité des luttes aujourd'hui et merci à Cassandre et Irène.
L'opportunité de pouvoir parler, d'avoir cet espace pour ça. Donc merci. Ouais.
Et merci aussi à cette réalisation aujourd'hui à quatre mains avec Colline et Madeleine.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédesluttes.info.